France Culture, il est midi et demi. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Les Britanniques sont appelés aux urnes aujourd'hui pour des élections générales anticipées qui pourraient ouvrir la voie soit à un Brexit mené par le Premier ministre sortant Boris Johnson, soit amener le pays vers un nouveau référendum laissant envisager un possible retour en arrière sur la décision de quitter l'UE, des élections décisives donc, mais à l'issue encore incertaine.
L'Algérie se rapproche-t-elle dangereusement de l'impasse ?
Oui, les Algériens sont appelés à voter aujourd'hui pour élire le successeur d'Abdelaziz Bouteflika, sauf que les 5 candidats en lice sont tous considérés par la contestation comme des enfants du système. La mobilisation contre la réforme contestée des retraites est entrée ce matin dans sa deuxième semaine et elle pourrait bien s'amplifier au lendemain de la présentation du projet par le Premier ministre, vivement critiqué par l'ensemble des syndicats. Enfin, comme chaque jeudi, notre journée spéciale municipale nous conduira aujourd'hui à Perpignan et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Deux dossiers, la réforme de l'audiovisuel public et la réforme des retraites et une double mobilisation sociale. On en parlera avec notre invité aujourd'hui, l'économiste Julia Caget. Elle est l'auteur notamment de l'information à tout prix et du prix de la démocratie, notre prix Pétrarque de l'essai France Culture Le Monde en 2018. Elle sera avec nous pour aborder tous ces sujets dans une vingtaine de minutes.
Merci et à tout à l'heure. C'était un certain 23 juin 2016. Ce jour-là, une majorité de Britanniques votait pour la sortie de l'Union européenne. Et depuis, eh bien, l'infini feuilleton du Brexit va de soubresaut en coup de théâtre. Dernier épisode aujourd'hui même, puisque les Britanniques sont appelés aux urnes pour des élections générales anticipées. Alors, si les conservateurs font toujours la course en tête dans les sondages, le scrutin s'annonce toutefois serré au vu des dernières enquêtes d'opinion. Et puis surtout, la saga ne s'arrêtera pas là, puisque rien ne changera dans l'immédiat en raison de la période de transition prévue par l'accord de divorce pour atténuer le choc de la sortie de l'Union européenne. Londres aura jusqu'au 31 décembre 2020 pour négocier la future relation avec le club européen, un délai qui semble d'ores et déjà quasi impossible à tenir. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyée spéciale au Royaume-Uni. Alors les précédents scrutins, Marie-Pierre, n'ont pas permis de mettre fin au cauchemar à la fois politique et institutionnel qui dure depuis 3 ans et demi maintenant. Cette nouvelle élection, toujours centrée sur le Brexit, a mis de nouveau le pays entier au bord de la crise de nerfs. Et pourtant, les Britanniques vont devoir trancher, en clair, le Brexit avec Boris Johnson ou un second référendum avec Jeremy Corbyn. Vous êtes actuellement, Marie-Pierre, dans la circonscription d'Uxbridge, c'est-à-dire là où se présente le Premier ministre sortant, Boris Johnson.
Oui, à l'extrême ouest de Londres, à une trentaine de kilomètres de Westminster, une circonscription conservatrice depuis des décennies, mais où Boris Johnson ne l'a emporté que de 5000 voix en 2017, d'où l'espoir du jeune travailliste Ali Milani de le faire trébucher et d'écrire l'histoire en mettant en échec un Premier ministre en exercice. Et c'est à portée de vote. Il y a une université ici, les jeunes se sont fortement mobilisés, on sait qu'ils sont majoritairement contre le Brexit. Leur participation est d'ailleurs l'un des enjeux de ce scrutin.
Alors ces élections seront évidemment décisives et le résultat, Marie-Pierre, reste encore très incertain.
Eh oui, on le sait depuis Hitchcock, les Britanniques sont les maîtres du suspense. Même si les conservateurs sont toujours donnés en tête, l'écart avec les travaillistes s'est resserré ces derniers jours. La partie de Boris Johnson n'aurait plus qu'entre 5 et 12 points d'avance selon les différentes enquêtes. C'est la différence en fait entre une confortable majorité et un Parlement encore une fois divisé sans majorité claire. Pourtant, c'est pour avoir enfin des communes à sa main, à même de mettre en œuvre le Brexit qu'il appelle de ses voeux, que Boris Johnson a provoqué ce scrutin. C'est d'ailleurs le message qu'il a martelé durant la campagne. Il surfe en cela d'ailleurs sur une certaine fatigue des Britanniques, toujours coincés dans une impasse, 3 ans après le référendum de sortie de l'Union. Mais il a accumulé les gaffes, le Premier ministre. Il a notamment été accusé d'insensibilité face à un jeune garçon étendu sur le sol dans un hôpital, faute de lit. Et la santé, justement, eh bien, elle était au cœur de la campagne du travailliste Corbyn, qui promet des investissements massifs. Mais Corbyn le Rouge effraie les milieux d'affaires. Le camp des Remainers oscille à un Brexit est toujours très divisé entre les travaillistes et les libéraux démocrates. Et tout cela est donc toujours extrêmement incertain à quelques heures de la fin des opérations de vote.
Et dans ce contexte, Marie-Pierre, quels sont donc les scénarios possibles ?
Alors là, tout reste ouvert. Le Brexit dès le 31 janvier, si Johnson l'emporte, voire un nouveau référendum qui annulerait ou pas ce Brexit, si c'est l'opposition qui gagne, un référendum pourquoi pas sur l'indépendance de l'Écosse, ou alors même à plus longue échéance, une Irlande réunifiée. Rien de ces scénarios, aucun de ces scénarios ne peut être vraiment exclu. L'avenir est toujours aussi incertain que ce ciel d'hiver gris qui pèse aujourd'hui sur le Royaume-Uni.
Merci Marie-Pierre Véro ainsi qu'à Jean-André Giannichini pour les moyens techniques. Là-bas aussi, la question pourrait se poser de savoir comment décrire au mieux le chaos qui règne actuellement dans le pays. Seule certitude en Israël, l'année qui s'achève aura tout simplement été la plus dysfonctionnelle de l'histoire politique de l'État hébreu hier soir. Et sans surprise, les députés ont échoué à désigner un nouveau Premier ministre. Les élus ont aussitôt adopté à l'unanimité une motion pour dissoudre le Parlement et fixer au 2 mars prochain les nouvelles élections, les troisièmes en moins d'un an. Eux seront appelés aux urnes aujourd'hui. Ce sont les Algériens qui, il y a quelques mois encore à peine, n'auraient sans doute jamais imaginé être appelés à désigner un successeur à Abdelaziz Bouteflika. Sauf que depuis, après pratiquement 10 mois d'une contestation populaire massive et inédite, ce scrutin est encore très largement perçu comme une manœuvre de survie de l'ancien régime, ou dit autrement, une mascarade électorale. Les 5 hommes en lice sont tous issus de la vieille garde, et c'est ainsi d'ailleurs qu'à Alger, les rares candidats à avoir placardé leurs affiches sur les panneaux électoraux se sont généralement retrouvés le visage lacéré, gribouillé ou même arraché. Toujours est-il qu'hier, des milliers de manifestants sont donc à nouveau descendus dans les rues de la capitale pour afficher leur détermination au cri de pas de vote, de sorte que s'il n'y a probablement pas de changement majeur à attendre de ce scrutin, il pourrait en revanche constituer un moment charnière de la confrontation entre les contestataires d'un côté et puis l'armée de l'autre, c'est-à-dire le premier pilier de l'État. Mathilde Dehimi, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes notre envoyé spécial sur place. Alors évidemment, faute de sondage en Algérie, il est difficile de prévoir quelle part des 24 millions d'électeurs iront voter. Mais dans un pays, Mathilde, où la participation est déjà traditionnellement et même chroniquement faible, eh bien la plupart des observateurs s'attendent à une abstention massive.
Oui, et dans ce contexte, Thomas, nous nous demandions qui allait bien pouvoir voter aujourd'hui dans le quartier du 1er mai à Alger. Et ce n'est effectivement pas l'affluence pour l'instant. Quelques femmes croisées ce matin à l'école Metzekal pour près de 3000 inscrites. Le responsable du bureau explique que les femmes arrivent en général plus tard dans la journée. Les femmes que l'on croise ont tout un accent patriotique. Certaines dénoncent l'ingérence du Parlement européen qui a dénoncé les arrestations massives, mais aussi celle de la France, restée silencieuse. Aïcha a l'index bleu d'encre, sa carte d'électrice à la main. Mon pays, c'est mon pays, l'Algérie, dit-elle. J'aime le peuple, tout le peuple, le peuple algérien. On ne doit pas laisser l'occasion à des pays étrangers de nous dicter ce que l'on doit faire, parce que si l'on ne vote pas, on leur donne la chance de venir nous coloniser une nouvelle fois. L'essentiel, bon président ou non, c'est qu'il soit algérien, conclut-elle. Autour d'elle, dans les classes de l'école, des observateurs des candidats et ceux qui encadrent le scrutin, tous membres de la toute nouvelle autorité indépendante des élections créée pour l'occasion. C'est elle qui proclamera officiellement demain les résultats. Une autorité qui assure que tout a été fait pour qu'il n'y ait pas de fraude, et notamment en mettant les bureaux en réseau informatique. Une absence de fraude à laquelle ne croit pas bien sûr une grande partie de la population, qui ne va donc pas aller voter. Ce sont ceux qui manifestent depuis 9 mois et qui appellent au boycott du scrutin. L'abstention s'annonce effectivement massive. Ils parlent même de journée de la trahison pour ceux qui vont voter, ne se reconnaissent pas dans les 5 candidats retenus, et notamment 2 anciens premiers ministres, Abdelaziz Bouteflika, Ali Benflis et Abdelmadjid Tebboune, et un ancien ministre soutenu par le FLN, Azzedine Mioubi. Dehors, devant le bureau où nous étions, des passants crie non au vote, observe et surveille ce qui se passe à l'intérieur, et une foule de manifestants converge vers la Grande Poste, le lieu de ralliement de tous les opposants au régime. A noter qu'en Kabylie, à Béjaïa, des opposants à cette élection ont jeté par terre les urnes et bulletins de vote peu après l'ouverture du scrutin.
Merci Mathilde Dehimi en direct d'Alger ainsi qu'à Arthur Gerbeau pour les moyens techniques. Le Premier ministre australien est sorti du silence aujourd'hui pour qualifier de troublantes les fumées toxiques liées aux incendies qui enveloppent depuis plus d'un mois Sydney, une pollution à l'origine de problèmes médicaux chez une bonne partie de la population, et puis fait suffisamment rare pour être noté. Le chef du gouvernement conservateur a également reconnu que le changement climatique était sans doute l'un des facteurs à l'origine des centaines d'incendies responsables de la destruction de millions millions d'hectares. La ligne d'horizon s'annonce là aussi chargée à Bruxelles, cette fois-ci au lendemain de la présentation par la nouvelle présidente de la Commission de son pacte vert pour lutter contre le changement climatique. Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se retrouvent aujourd'hui et pour deux jours en sommet pour des négociations qui s'annoncent difficiles. En l'occurrence, l'objectif d'une neutralité carbone d'ici 2050 bute d'ores et déjà sur les réticences d'au moins trois pays, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque, tous encore très dépendants des énergies fossiles et notamment du charbon. Les précisions de notre correspondante Angélique Boin.
On va y passer la nuit, prédit un habitué. Principal enjeu de ce sommet, se mettre tous d'accord sur la date de 2050 pour que l'Europe devienne le premier continent neutre en carbone. C'est l'objectif de la Commission. Mais pour cela, il faut encore convaincre trois pays, dont la Pologne, explique Pascal Canfin, le président de la Commission environnement au Parlement européen.
Ils ont 80% de leur électricité qui est produite à base de charbon, d'où une proposition importante qui est d'avoir un fonds de transition juste, de façon à ce qu'on accompagne les Polonais et quelques pays d'Europe centrale et orientale à réduire la part du charbon dans leur production d'électricité, sans avoir des grèves massives, sans avoir des gilets jaunes polonais partout.
Un fonds alimenté en partie par le futur budget pluriannuel sur lequel les 27 s'écharpent déjà depuis des mois. Budget largement amputé par le départ des Britanniques et dont 25% au moins devraient être écolo-compatibles pour tenir l'objectif de 2050. Certains États auraient par ailleurs bien voulu raboter la politique agricole commune pour financer les nouvelles priorités comme la sécurité ou la défense. Mais les agriculteurs, premières victimes des sécheresses ou des inondations, seront aussi parmi les plus impactés par nos ambitions climatiques, rappelle une source européenne.
Au lendemain de l'attaque perpétrée par plusieurs centaines de combattants djihadistes contre un camp militaire au Niger, non loin de la frontière avec le Mali, attaque dont le dernier bilan fait état de 71 morts parmi les soldats et 12 blessés, Emmanuel Macron s'est entretenu hier soir par téléphone avec son homologue nigérien avec lequel il a convenu de proposer le report du sommet prévu ce mois-ci sur le Sahel. Rappelons que depuis l'intervention militaire française au Mali, c'était en janvier 2013, et bien le Sahel est devenu un théâtre majeur de la guerre contre le djihadisme. Or, face au délitement des États, mais aussi à l'emprise des bandes armées, notamment sur la jeunesse, et bien plus personne ne semble savoir comment sortir de ce conflit sans fin. Si l'objectif hier du gouvernement était de rendre sa réforme des retraites plus lisible, force est de constater que l'objectif a été atteint, tellement bien d'ailleurs qu'en dissipant les derniers flous, l'exécutif a réussi à se mettre à dos l'un de ses rares alliés, la CFDT, laquelle a aussitôt rejoint le camp des opposants. En réalité, hier, ce sont même toutes les organisations réformistes, CFDT, UNSA et CFTC, qui ont rejoint le front syndical, signant là l'échec donc d'Édouard Philippe à déminer la contestation, et pour cause, puisque globalement, le gouvernement n'entend rien céder sur les grands principes de sa réforme. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors la CFDT, qui jusqu'à présent laissait le bénéfice du doute à l'exécutif, déplore en particulier l'instauration d'un âge d'équilibre fixé à 64 ans à partir de 2027, d'où la tentative de déminage ce matin de la part de plusieurs personnalités de la majorité présidentielle. Plusieurs voix ont tenu à assurer solennellement que des ouvertures étaient encore possibles. Avec quelle crédibilité, Annabelle, étant entendu que le gouvernement a précisément dévoilé hier en connaissance de cause le contenu de sa réforme?
Bien, la CFDT était quand même la seule à ne pas vouloir y croire. Pourtant, le gouvernement n'en faisait pas mystère. Édouard Philippe avait déjà dit qu'il annoncerait une mesure d'âge bien avant son discours au CESE. La CFDT voulait croire au dialogue, laisser le temps à la concertation, et il n'était donc pas question d'appeler à manifester le 5 décembre. D'autres rencontres paritaires étaient prévues à Matignon. Bref, la Confédération et son patron, Laurent Berger, affichaient une sérénité à toute épreuve et, à vrai dire, une bien belle patience. Une patience qui semble être arrivée à bout avec le gouvernement. Édouard Philippe, hier, n'a pas changé une virgule à ses déclarations sur les mesures d'âge. Juste a-t-il précisé le mécanisme du bonus-malus et la date de la mise en place, c'est-à-dire 2022, pour un âge d'équilibre qui atteindra en effet les 64 ans en 2027, concernant donc tous les salariés à partir de la génération née en 1960. Une mesure sur laquelle, dit-il, il serait prêt à entendre les partenaires sociaux, et particulièrement bien sûr la CFDT. Mais cette main tendue arrive extrêmement tard, assure Marie-Lise Léon, la secrétaire générale adjointe de la Confédération. On ne nous fera pas le coup de l'assurance chômage, on ne la fera pas deux fois, prévient Laurent Berger. Le coup de l'assurance chômage, c'est-à-dire le gouvernement gouvernement décide d'une mesure, ouvre une concertation avec les partenaires sociaux et applique la mesure à la lettre. Un simulacre donc de négociation vécu comme un véritable mépris de la bouche même de Laurent Berger. Vouloir être constructif, ça ne veut pas dire se laisser marcher dessus, assure-t-il. Alors Laurent Berger finira-t-il par répondre à toutes ces mains tendues qui se multiplient ce matin au sein de l'exécutif? Avant d'avaler une nouvelle couleuvre, il lui faudra en tout cas lui laisser le temps de la digestion.
Merci Annabelle Grelier. Alors la seule journée d'hier n'aurait sans doute pas suffi en réalité à lister l'ensemble des points de désaccord entre le gouvernement et les syndicats, jusqu'à rajouter même de la difficulté à la difficulté en maintenant donc la création d'un âge d'équilibre à 64 ans. Et c'est ainsi que la mobilisation syndicale reste aujourd'hui encore total et même unitaire. La CGT Cheminot, premier syndicat à la SNCF, annonce ce matin qu'il n'y aura pas de trêve pour Noël dans le mouvement de grève en cours. Plusieurs cortèges se sont élancés ce matin à Limoges, Reims, Grenoble, Châteauroux, Rennes, Poitiers, pour ne citer que la zone industrielle et portuaire du Havre est aujourd'hui bloquée. Idem au grand port maritime de Marseille. Puis la CGT revendique également des coupures de courant à Béziers. D'où cette question. Pourquoi finalement l'exécutif a-t-il pris le risque assumé de braquer l'ensemble des partenaires sociaux? Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Cette obstination s'explique-t-elle uniquement par la tentative d'Emmanuel Macron de sauvegarder son image réformatrice ou bien ce choix politique répond-il à d'autres attentes?
Le gouvernement s'est-il dit que quitte à affronter la tempête, autant charger la barque? C'est une hypothèse. Le Premier ministre défend en tout cas point par point sa réforme, plus juste, plus équitable et surtout nécessaire pour ramener le système à l'équilibre. Mais tout ce qu'il réussit à faire pour l'instant, effectivement, c'est la quasi-unanimité syndicale contre lui.
Toute la question est de savoir maintenant ce qui va se passer dans les prochains jours en termes de niveau de mobilisation.
La suite va donc se jouer dans la rue, selon le politologue Jérôme Fourquet de l'IFOP. Il le dit à Stéphane Robert.
Est-ce qu'il y a un retour de flamme avec l'arrivée supplémentaire de sympathisants de ces organisations syndicales réformistes? Et si oui, est-ce que le gouvernement lâche du lest pour essayer de dissocier ce front syndical? Ou est-ce que cette borne à 1975 qui introduit une ligne de clivage au sein du monde du travail, est-ce que c'est pas de nature à créer un peu de résignation? Rappelons qu'on sera à quelques jours des fêtes de fin d'année et que peut-être si il n'y a pas de regain de combativité syndicale dans les jours qui viennent, le gouvernement peut se dire que le plus dur est maintenant derrière lui. Donc c'est dans les 5 ou 6 prochains jours que on sera fixé sur cette question.
Quoi qu'il en soit, si le gouvernement persiste et ne lâche rien, il risque la paralysie du pays dans une période économique importante. S'il recule, il casse l'image de réformateur du président et peut provoquer la perte de son socle d'électeurs à droite. C'est sa crédibilité qu'Emmanuel Macron met là sur la table dans un match qui pourrait maintenant se jouer entre l'opinion et les syndicats.
Merci Rosalie Lafarge. Enfin, toujours au chapitre des mobilisations, c'est aujourd'hui la 18e journée de grève à Radio France à l'appel de la CGT contre le plan d'économie de la direction qui prévoit notamment la suppression de 299 postes d'ici 2022. Comme chaque jeudi, à présent, notre journée spéciale municipale nous conduit aujourd'hui à Perpignan, la ville qui compte 120 000 habitants et l'une des plus pauvres de France. Et elle pourrait aussi devenir la première ville de plus de 100 000 habitants gagnée par le Rassemblement National. Alors avant d'essayer de comprendre avec notre invité s'il existe ou non un lien de cause à effet, commençons par dresser le tableau avec vous, Laura Dulieu, bonjour.
Bonjour.
Louis Alliot briguera donc en mars prochain la mairie de Perpignan et ça n'est pas franchement une surprise, Laura, puisque c'est en l'occurrence sa 3e tentative.
Oui, en 2014, Louis Alliot était même arrivé en tête au premier tour, mais le fameux Front Républicain l'avait empêché de gagner. Pour 2020, le député qui se présente sans étiquette est donc bien décidé à rassembler assez d'électeurs pour gagner, même avec des éventuels désistements au deuxième tour. Il aura face à lui le maire sortant, les Républicains, Jean-Marc Pujol, qui a décidé tardivement de se représenter. À 70 ans, il brigue donc un 3e mandat, et ce malgré un bilan très critiqué, un bilan axé principalement sur la sécurité. Perpignan est désormais la première ville de France en termes de nombre de policiers municipaux par habitant, mais c'est aussi l'une des villes les plus pauvres du pays, avec un taux de pauvreté de 32%, et c'est là-dessus que la campagne va se jouer. La campagne qui n'a pas encore vraiment commencé, hormis peut-être pour Romain Gros, le candidat LREM très présent sur le terrain. Passé par l'opposition municipale socialiste puis par la majorité UMP-UDI, il a finalement choisi l'investiture En Marche. Voilà pour les 3 candidats favoris. Pour le reste, la gauche est divisée en 2 listes. Il y a 2 autres candidats à droite, en plus de Jean-Marc Pujol et une candidate centriste. Mais c'est bien entre les candidats du trio de tête que le scrutin va se jouer.
Voilà, et pour poursuivre donc notre exploration, nous retrouvons à présent en direct et en duplex de chez nos confrère de France Bleu Roussillon, Dominique Sistac, politologue et sociologue à l'université Via Domitia de Perpignan. Perpignan. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ainsi que Laura Dulieu vient donc de nous l'expliquer, on a bien compris que Perpignan était un enjeu important pour le Rassemblement National. Quelles sont d'après vous les chances pour Louis Alliot de remporter la mairie ?
Les chances sont importantes actuellement, puisque on voit les candidats en place, y compris Jean-Marc Pujol qui se représente, relativement éclatés face à lui, et les sondages d'opinion que nous avons eus et le travail de terrain que nous faisons nous montrent qu'il sera probablement très largement en tête dès le premier tour. Donc l'équation du second tour est plus complexe que la fois précédente, que le scrutin précédent, puisque il risque d'y avoir potentiellement deux candidats contre Louis Alliot, et donc à ce moment-là, une triangulaire pourrait être fatale à la ville, et Louis Alliot pourrait l'emporter.
Question de Laura Dulieu.
Dominique Sistac, Perpignan, on l'a dit, est l'une des villes les plus pauvres de France, avec un taux de pauvreté à 32%, un taux de chômage qui dépasse même les 80%, notamment dans le quartier Saint-Jacques, dans le centre-ville. On a l'impression que pas grand-chose n'a évolué depuis des années. Quelles sont les raisons historiques, politiques, de cette pauvreté endémique ?
Alors, les raisons sont assez durables, on va dire, depuis la naissance de la Ve République. Je dirais que la ville a atteint, en quelque sorte, son apogée, le début de son déclin à ce moment-là. Après l'élection de Paul Alduy, au début des années 60, la ville et le pays, en règle générale, ont connu de plein choc tous les effets de crise qu'a connu la France à ce moment-là et l'Europe. La différence, c'est que ce département, qui est le plus septentrional de France, s'est retrouvé aussi un peu oublié, abandonné des élus nationaux, de la République et de l'État, et que, de manière conjuguée, les élus locaux aussi se sont, en quelque sorte, acharnés dans cette culture de l'indéveloppement, du paupérisme, qui était en même temps pour eux une rente électorale, mais qui a été suffisamment impactante dans la durée et à répétition. Cela aboutit à ce résultat que nous connaissons aujourd'hui.
Et la pauvreté, elle est concentrée également en centre-ville, ce qui est plutôt original, inhabituel, comparé aux autres villes de France ?
Tout à fait, parce que la géographie du département, il faut la resituer, 500 000 d'habitants, une aire urbaine relativement importante de plus de 300 000 habitants, et Perpignan, c'est une zone de chalandise, on va dire, de à peu près 120-125 000 personnes. Et si on regarde attentivement, Perpignan se vide progressivement au bénéfice de l'aire urbaine, de manière beaucoup plus accrue que dans les villes moyennes que nous connaissons dans le Grand Sud-Est et Sud-Ouest de la France, puisque, en effet, là, on a un abandon du centre-ville à raison de la situation sociale, économique, du paupérisme visible, de ce qu'on appelle, de manière un peu syncrétique, l'insécurité à Perpignan, et qui fait que ce centre-ville et cette ville qui devrait être pilote, qui devrait avoir un projet, est en fait abandonnée. Donc on a ceci de manière un peu spectaculaire, on a eu une aire vide au centre d'une aire urbaine qui elle est pleine, c'est tout à fait singulier à l'analyse.
On a une aire vide mais aussi une aire très fracturée, les fractures sont très nettes, parfois une seule rue entre par exemple le quartier commerçant et les quartiers plus pauvres occupés par exemple par les communautés gitanes ou marocaines. Comment on en est arrivé à si peu de mixité sociale ?
Je serais tenté de dire la force de l'habitude, mais plus sérieusement, il est vrai que la ville de Perpignan a été dirigée avec un appareillage clientélaire et qui est devenu progressivement, en plus du clientélisme local, argumenté et argué avec une mise en avant des communautés et d'un communautarisme politique. Donc, obligatoirement, les lignes de frontière sont des lignes de fracture qui ne sont pas neutres. Elles sont entretenues, elles sont utilisées, et bien entendu, elles font partie non pas simplement d'un spectacle ou d'un folklore, mais d'un vrai ressort électoral à Perpignan.
Et le mandat de Jean-Marc Pujol a été centré sur la sécurité, vous l'avez rapidement évoqué, avec une augmentation du nombre de policiers municipaux et le gros développement des caméras de surveillance dans la ville. C'était la priorité, selon vous, ça a servi à quelque chose ?
Je crois que la priorité ultime du département depuis une vingtaine d'années, c'est de définir une stratégie globale, économique, sociale, migratoire, même dans un certain sens, puisque les Pyrénées-Orientales accueillent beaucoup de ressortissants nationaux, européens ou autres. L'important, c'est de fixer cette stratégie. Or, on le voit bien aujourd'hui dans ce début de campagne à Perpignan, on est plutôt dans une campagne électorale de villes de type 4 000, 5 000 habitants, on débat du programme sportif, de la sécurité éventuellement, la ville semble complètement étrangère à l'évolution du monde. Elle ne définit pas de projet et les partis politiques en lice n'en sont toujours pas là.
Merci Dominique Sistac, politologue et sociologue, je le rappelle, d'avoir répondu à notre invitation en direct et en duplex de chez nos confrères de France Bleu Roussillon. Merci également à Laura Dulieu. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. L'arrivée d'une nouvelle perturbation sur l'ouest donnera des pluies marquées, mêlées parfois de coups de tonnerre, de puissantes rafales de vent jusqu'à 80 à 100 km à l'heure sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique, du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté aux Alpes du Nord. Là, les conditions devraient s'améliorer avec le retour d'éclaircies. Enfin, la région PACA profitera, elle, d'une belle journée bien ensoleillée. Quant aux températures, elles afficheront entre 5 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.